Vous écoutez, on lit pour vous.
Derrière les animaux abandonnés, des humains déchirés. Un texte d'Elena Meyer paru le 1er juillet 2025 dans Le Devoir. C'est une des pires journées de l'année. De retour d'une intervention où elle a récupéré un chaton abandonné et un pigeon blessé, Kim Saint-Hilaire s'accorde un moment de répit dans l'habitacle de son camion, stationné à l'ombre. Patrouilleuse pour la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, SPCA de Montréal, elle sillonne les rues pour récupérer les animaux que leurs propriétaires ne peuvent plus garder. Le 1er juillet, c'est le début d'une semaine éprouvante pour les équipes sur le terrain. Ce n'est pas parce que les gens veulent abandonner leur animal, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, estime la patrouilleuse. Depuis plusieurs semaines, la SPCA multiplie les appels à la collaboration pour éviter une surcharge critique de ces refuges. Mais l'afflux est inévitable. Pour les 4 premiers mois de 2025, l'organisme a accueilli plus de 1200 animaux, une hausse de 26 % par rapport à la même période en 2024. Les raisons d'abandonner un animal évoqué sont presque toujours d'ordre financier ou liées au logement, confirme Laurence Massé, directrice générale de la SPCA. Pour donner une idée, 52 % des ménages québécois ont un animal de compagnie, mais seulement 4,2 % des propriétaires acceptent les chiens sans condition, précise-t-elle. Donc, dans un contexte de crise du logement, tout ça est exacerbé. Kim, patrouilleuse, voit cette réalité de près. Chats, chiens, lapins, rats, parfois même de la faune sauvage et des animaux exotiques. Elle répond aux appels de propriétaires démunis. Il arrive que les gens nous appellent eux-mêmes. Ils n'ont pas trouvé de logement qui accepte les animaux, n'ont pas de voiture ou plus les moyens de se déplacer. D'autres fois, ce sont les concierges ou les nouveaux locataires qui signalent la présence d'un animal laissé derrière, seul dans un appartement vidé. Le poids du dernier jour. Beaucoup attendent la dernière minute, persuadés qu'ils réussiront à trouver une solution ou à faire adopter leur animal par eux-mêmes. Les gens repoussent, espèrent jusqu'à la fin. Et puis, la date arrive, résume Kim. Dans les pires journées, je peux recevoir jusqu'à 15 appels. En moyenne, c'est 7 à 8 interventions par patrouilleur. On est 2 le jour, 1 la nuit, explique la patrouilleuse. Elle se souvient de ces nuits où, à l'époque où elle était de garde, elle trouvait des animaux abandonnés dans les cages d'escalier, dans des boîtes ou même sur les balcons. Résultat, les abandons s'accumulent dans la nuit du 1er au 2 juillet. Le matin, on retrouve les animaux laissés derrière. Il y a les locataires qui ont été évincés aussi. Et ça, c'est épouvantable. Ces gens-là, ils le savaient depuis des mois. Il y a eu un jugement, des lettres de rappel. Et pourtant, je les ai vus, le jour même, sur leur palier, un carton dans les bras avec leur animal à l'intérieur, encore en train d'appeler à gauche et à droite pour essayer de loger leur animal, déplore la patrouilleuse. Pour Laurence Massé, ces abandons ne sont pas le fait de propriétaires négligents. Au contraire, ce sont des gens qui se sont toujours bien occupés de leurs animaux, qui les ont aimés, soignés. Mais la seule raison pour laquelle ils les abandonnent, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de logement, souffle-t-elle. Ce sont des situations profondément déchirantes. Un métier avec les bêtes, mais surtout avec les humains. Le travail de Kim Saint-Hilaire ne se limite pas à placer un chat dans une cage de transport. « J'ai un contact très bref avec l'animal », explique-t-elle. « Mais avec l'humain, c'est autre chose. Mon travail, c'est d'abord de rassurer, d'écouter. » Elle parle d'une détresse palpable, des gens en larmes, des familles qui s'excusent mille fois. C'est un mélange de peine et de colère. Je le ressens aussi. Je ressens ce qu'ils ressentent, confie-t-elle. Il y a des journées très difficiles, comme aujourd'hui, ajoute-t-elle. Certaines interventions la marquent davantage que d'autres. Quand j'ai un appel et que je dois aller chercher une dizaine de chatons non sociables dans une maison insalubre et courir dans la cochonnerie pour les attraper, je vis des situations que personne ne vit, lance-t-elle, mi-rieuse, mi-fatiguée. Cette fatigue, Laurence Massé la connaît bien aussi. On voit dans les médias une ou deux histoires poignantes, mais notre équipe de réception, elle, en traite une à l'heure. On voit des familles brisées, des animaux en détresse. C'est extrêmement exigeant. Et demain, les appels vont continuer. Les gens déménagent aujourd'hui. Ce soir, ils dormiront ailleurs. C'est souvent seulement après qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas de solution pour leur animal. Dans son camion, entre deux interventions, Kim résume. On est là pour les animaux. Mais c'est aussi du soutien aux communautés vulnérables qu'on fait. C'était « Derrière les animaux abandonnés, des humains déchirés », un texte d'Elena Meyer paru le 1er juillet 2025 dans Le Devoir.
Qu'est-ce que le biopiratage? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 août 2025 dans La Presse. Le biohacking, ou biopiratage, est un mouvement apparu il y a près de 20 ans qui veut démocratiser la biologie synthétique, un peu comme l'ordinateur personnel a démocratisé l'informatique. Le biohacking est apparu en 2008 sous l'impulsion d'anciens informaticiens du MIT, Massachusetts Institute of Technology, qui considérait que le vivant serait au cœur de la nouvelle révolution technologique, qu'elle serait plus biologique que basée sur le silicone, explique Daphné Esquivel-Sada, sociologue montréalaise qui a étudié la question dans son doctorat. Il voulait lancer des communautés de biotechnologie, des laboratoires communautaires, et ont eu l'appui de grandes figures de Harvard et Stanford en biologie synthétique. Le terme biohacker a été inventé par un journaliste du Washington Post en 1988, mais il s'agissait alors d'une pure spéculation qui a mis 20 ans à se concrétiser. En français, les termes biopirate et biopiratage sont utilisés. L'objectif était de prendre des séquences génétiques et de les manipuler comme on écrit du code informatique, précise Mme Esquivel-Sada. On voulait aussi s'inspirer du code ouvert, open source. C'était une critique de la privatisation des données scientifiques en biologie. L'idée était qu'un jour, n'importe qui pourrait faire chez soi un vaccin, de l'aspirine, un supplément vitaminique ou des plantes bioluminescentes pour illuminer sa maison. OGM. Les réseaux de biopiratage sont rapidement devenus mondiaux. Mais il y avait une différence importante entre les États-Unis, le Canada et l'Europe. Ici, il y a plus de liberté qu'en Europe. On peut faire, par exemple, de la transformation génétique de bactéries tant que c'est un niveau de biosécurité, mais pas en Europe, indique Daphné Esquivel-Sada. Alors les biohackers européens se sont plutôt occupés à développer des peintures biologiques ou des tests anti-OGM. Ici, il y a une culture plus libertarienne de « faites-le vous-même »,« do it yourself ». Les organismes génétiquement modifiés, OGM, sont des plantes agricoles améliorées par génie génétique. Les biopirates américains sont d'ailleurs très partisans des OGM et veulent vaincre la peur de ces aliments. Ils veulent transformer les OGM en quelque chose de trivial, d'amusant, observe la sociologue montréalaise. Il y en a qui disent « je suis fier d'en boire ». Ils voient le désir de réglementer les OGM en Europe et ailleurs comme une peur infondée, une mauvaise compréhension de la science. Bio-artiste. La modification des micro-organismes permise par les autorités américaines et canadiennes a notamment mené des biopirates à produire de nouvelles levures génétiquement modifiées pour de la bière ou du pain, ou encore à produire des œuvres d'art avec des bactéries génétiquement modifiées. Madame Esquivel Sada cite notamment Tagny Duff, professeur de communication à l'Université Concordia, qui fait de l'art biologique. D'autres bioartistes ont cherché à transformer leur propre corps dans le but ultime d'améliorer leur vision ou leur ouïe, ou d'intégrer des puces à leur cerveau. Il y a même un gars durant la COVID qui s'était injecté de la thérapie génique, relate Mme Esquivel Sada. Mais ces transformations sont un peu controversées, alors leurs praticiens ne sont pas très ouverts à en parler. Comme on est loin de pouvoir améliorer ses sens par la modification génétique, les bioartistes se contentent pour le moment de modifications actuellement possibles, comme se greffer sur le bras une puce en forme d'oreille. En savoir plus, 18 100, nombre de membres de Biohackers Global, un groupe Facebook lancé en 2014. Source, Facebook Université de Lund. C'était « Qu'est-ce que le biopiratage ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 3 août 2025 dans La Presse.
Renvoyé après 15 ans de travail bénévole. Un texte de Thomas-Emmanuel Côté, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse. Ils m'ont séparé de ma deuxième famille. Atteinte de trisomie 21, Alix Parisien travaillait bénévolement depuis 15 ans à la succursale d'Auxerre de Gatineau. Puis, mardi le 8 juillet 2025, on lui a annoncé que c'était la fin. Son gérant l'a informé qu'elle n'aurait plus de car en raison d'une nouvelle logistique de livraison. Une décision que s'expliquent bien mal ses parents, chez qui elle vit toujours, qui trouvent dommage que leur fille de 37 ans perde une occupation stimulante et qu'elle aimait beaucoup. Quand on est content d'aller à sa job, ça change tout, dit son père, Robert Parisien. Il faut qu'elle soit accompagnée pendant des semaines pour être formée dans un nouvel emploi. Il faut tout recommencer maintenant, ajoute sa mère, Anne Buisson. Remercier une personne qui travaille bénévolement sans l'accompagner dans une transition vers autre chose, ce n'est pas acceptable, commente pour sa part Amélie Durand-Lot, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Renaud Bré, qui a racheté Auxerre à l'automne 2024, défend cependant sa décision. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de licenciement, parce qu'elle était bénévole, dit d'emblée Floriane Claveau, directrice des communications et des partenariats chez Renaud Bré. Madame Claveau explique que le rachat a amené plusieurs changements opérationnels qui faisaient que Madame Parisien, qui ne travaillait qu'une fois par semaine, se retrouvait parfois à ne rien faire. Alix Parisien est très loin d'être la seule personne avec une déficience intellectuelle à avoir travaillé longtemps sans être rémunérée ou en étant sous-payée, comme l'a mis en lumière un récent dossier publié dans La Presse. Dans son cas, ses parents expliquent que les dédales administratifs, notamment au début de son lien d'emploi, ont fait en sorte qu'il était difficile pour elle d'être rémunérée. Entre ne pas travailler ou travailler sans être payée, Mme Parisien et ses parents ont donc choisi le travail. Nous, ce qui nous convenait, c'était qu'elle puisse travailler, se lever le matin et avoir des collègues. Un travail qu'elle aime. Peintre née, Alix Parisien voit la vie en couleur. Elle fait ses épiceries par couleur. Elle me dit des fois, « Maman, on n'a rien de jaune pour la salade », raconte sa mère. En plus des salades, elle se sert des couleurs pour peindre de jolies toiles, et ce, depuis des années. En 2010, Alix Parisien se trouve un emploi, non rémunéré, au magasin d'art plastique de serre à Gatineau, en plein dans sa palette. Elle s'occupe notamment de décharger les camions de livraison et de placer le matériel dans les rayons. Ce qu'elle aimait le mieux ranger? La peinture, évidemment. Rapidement, elle prend goût au travail. Travailler, ça permet de faire comme monsieur et madame tout le monde et d'être inclus dans la société, nous dit Amélie Durand-Lot, directrice générale de la Société québécoise de la déficience intellectuelle. Madame Parisien travaillait 3 jours par semaine avant la pandémie, plus qu'une journée depuis. Elle ne pourrait pas travailler 40 heures par semaine. « Je serais trop fatiguée », avoue-t-elle sans gêne. Après ses quarts, de 9 heures à 15 heures, c'était l'heure de la sieste. C'était tellement agréable de travailler avec Alix. Elle ne chialait jamais et c'est très rare qu'elle n'ait pas été souriante, raconte Alain Côté, l'ancien directeur chez Dessert, qui l'avait embauché, à l'époque, comme stagiaire. Elle avait de quoi sourire. L'ambiance était bonne au magasin. Ses équipiers venaient voir ses expositions et ses gérants lui donnaient même des conseils pour ses toiles. Le rachat de Dessert par Renaud Bré en octobre 2024 a cependant tout changé. Un gérant a été licencié et d'autres équipiers ont quitté le commerce depuis. « Moi, je vais être la prochaine », a-t-elle récemment dit à ses parents. Les conditions n'étaient pas réunies. Pour les parents d'Alix Parisien, les raisons de l'employeur ne sont que des prétextes. Ceux qui sont là actuellement veulent-ils vraiment avoir quelqu'un comme Alix? S'interroge Robert Parisien. Il y a un effort humain à intégrer quelqu'un comme Alix. Anne Buisson, mère d'Alix Parisien, affirme. La diversité, ce n'est pas juste des questions ethniques ou LGBTQ+. La diversité, c'est aussi la différence et la déficience intellectuelle. Renaud Bré n'a pas de programme pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Les conditions n'étaient pas réunies pour garder convenablement Alix Parisien, dit Mme Claveau. À défaut, il valait mieux s'abstenir que de causer des problèmes. Elle ajoute que Mme Parisien doit être suivie par d'autres employés qui doivent prendre le temps de lui expliquer de nouvelles tâches et elle n'est pas quelqu'un qu'on peut laisser tout seul. Or, ce n'est pas ce que pense Alain Côté, qui l'avait embauché. Les dernières années où j'étais là, quand j'engageais des nouveaux, c'est souvent Alix qui les formait. Prochaine étape pour Alix Parisien, aller porter des CV. Elle souhaiterait travailler chez Simons, parce que c'est vraiment beau. Ou dans une librairie. Mais pas chez Renaud Bré. C'était renvoyé après 15 ans de travail bénévole. Un texte de Thomas-Emmanuel Côté, paru le 13 juillet 2025 dans La Presse.
Protéger son jardin des ravageurs en douceur. Un texte de Gabriel Rochon-Sabourin, paru le 19 juillet 2025 dans Le Devoir. Juillet est le mois qui marque le moment où les plantes sont à leur apogée dans les jardins et les potagers. C'est toutefois aussi la période où les ravageurs se multiplient, menaçant les cultures et les plantes ornementales. Marmottes, lapins, écureuils, scarabées, japonais, pucerons, limaces, la liste des indésirables est longue. Heureusement, il existe des moyens écologiques et respectueux pour les tenir à distance sans nuire à l'environnement ni aux cultures. Privilégier des méthodes douces contre les ravageurs protège la biodiversité et préserve la santé des sols, deux éléments essentiels d'un jardin équilibré et vivant. En favorisant des pratiques douces, on soutient également les prédateurs naturels qui régulent naturellement les populations nuisibles, réduisant ainsi le besoin d'interventions invasives. La prévention demeure la meilleure stratégie pour maintenir la vitalité du jardin, car toute intervention, même respectueuse, peut perturber les organismes bénéfiques qui sont nos meilleurs alliés. Les insecticides vendus en grande surface agissent rarement de façon sélective et viennent plutôt briser les mécanismes naturels qui favorisent la symbiose entre les différentes formes de vie. L'objectif est donc de tendre vers un équilibre naturel où chaque organisme joue son rôle, créant un environnement sain, diversifié et dynamique. Il faut retenir qu'un jardin écologique est un écosystème en action. Protéger le potager des rongeurs et des animaux fouisseurs. Avant toute intervention, il convient de se demander si une action est réellement nécessaire. Parfois, cohabiter avec la faune du jardin et tolérer quelques pertes peut être la solution la plus harmonieuse. Cependant, si leur présence dépasse un seuil acceptable, plusieurs solutions s'offrent à vous. Les barrières physiques constituent la méthode la plus efficace à long terme. Clôtures et cages grillagées, adaptées précisément aux ravageurs ciblés, font leurs preuves. Par exemple, un cerf de Virginie exige une clôture d'au moins 2 mètres de haut, tandis que les lapins sont freinés par des mailles fines de 2 cm et une hauteur minimale de 60 cm. Pour les animaux fouisseurs comme les marmottes, on recommande un grillage enfoui à 30 cm ou recourbé vers l'extérieur. Si une barrière permanente n'est pas envisageable, des mesures temporaires comme les répulsifs non-invasifs à base d'urine de coyote ou contenant du soufre pour une imitation d'odeur d'œufs pourris vendus en magasin peuvent être utilisées, mais leur efficacité est limitée et de courte durée. Il faudra donc recommencer leur application régulièrement. Finalement, les effaroucheurs, ces objets physiques qui servent à faire peur aux ravageurs qui s'aventurent dans nos jardins, tels l'épouvantail traditionnel ou une simple lampe à détecteur de mouvement pour les animaux nocturnes, peuvent s'ajouter aux stratégies de contrôle. Gérer les insectes nuisibles. Alors que nous dénombrons maintenant plus de 1 million d'espèces d'insectes dans le monde, il faut savoir que moins de 1% d'entre eux sont réellement nuisibles. Avant toute intervention, il est donc essentiel d'identifier précisément l'insecte ciblé, car celui-ci est souvent un allié précieux pour votre jardin. L'équilibre naturel étant votre meilleure défense, il convient alors avant tout de créer un lieu propice à la présence des prédateurs naturels en leur offrant des refuges. Le crapaud d'Amérique, très répandu dans les jardins et redoutable prédateur de multiples larves, escargots et limaces, a notamment besoin de bosquets de vivaces près des jardins pour se réfugier ou d'un petit jardin d'eau à proximité, car il apprécie les abris frais et humides. Les coccinelles indigènes, dévorant plus d'une centaine de pucerons par jour, aiment les hôtels à insectes et requièrent que nous limitions notre usage d'insecticides pour ne pas leur nuire. Miser sur les plantes compagnes est également une excellente façon de dérouter les insectes nuisibles. Les fines herbes, avec leur parfum prononcé, sont souvent cultivées à proximité des légumes pour cette raison. Certaines fleurs, comme les tagettes et les soucis, sont également reconnues pour leurs propriétés protectrices. À l'inverse, il est important d'ajouter des fleurs au jardin, non pas pour repousser, mais bien pour attirer une plus grande diversité d'insectes et d'oiseaux qui viendront réguler naturellement les populations de ravageurs. Finalement, les méthodes manuelles restent particulièrement efficaces et écologiques car elles sont très ciblées. Elles consistent par exemple à utiliser un aspirateur à main pour aspirer des chrysomèles rayés dans les fleurs. Une autre méthode efficace est l'utilisation d'un seau d'eau savonneuse pour y jeter les larves d'insectes, tels les doryphores qui s'attaquent aux plants de patates ou encore les scarabées japonais. Pour éloigner les indésirables, on peut souvent miser sur les ressources à notre portée et sur notre créativité, tout en s'inspirant de nos observations. Un chien qui rôde autour du jardin peut, par exemple, décourager bien des visiteurs. L'important est de privilégier des interventions ciblées et de toujours chercher à minimiser nos répercussions sur l'écosystème. Cultiver un jardin résilient et en équilibre. Un jardin équilibré et résilient, ça se prépare dès la planification. Autant que possible, il faut prévoir une rotation des cultures en évitant de planter une même famille de plantes au même endroit d'une année à l'autre et idéalement pendant 4 ans. Cette pratique permet non seulement de déjouer les insectes et les pathogènes qui demeurent dans le sol, mais aussi de préserver la vitalité du sol en évitant de lui imposer continuellement les mêmes exigences nutritionnelles. Il est aussi essentiel d'intégrer intentionnellement une grande diversité de plantes pour attirer pollinisateurs et prédateurs naturels, en ajoutant par exemple des tournesols, des cosmos, du basilic sacré ou des titonias. Enfin, lors de la belle saison, prendre le temps d'observer régulièrement son jardin permet de détecter rapidement les premiers signes d'un problème. Observer, comprendre et intervenir sans tarder lorsque nécessaire sont les clés pour le maintien de la santé de son jardin. 3 solutions contre les marmottes. Répulsif naturel. L'urine de renard ou de coyote, vendue en magasin, fonctionne bien pour éloigner les marmottes, à réappliquer souvent, surtout après la pluie. Clôture grillagée. Un grillage enfoui à 30 cm ou recourbé vers l'extérieur et fixé au sol est une solution durable qui empêche les marmottes de creuser. Réduction des abris, tailler les broussailles, déplacer les tas de bois et dégager les cabanons pour limiter les cachettes attrayantes. C'était « Protéger son jardin des ravageurs en douceur », un texte de Gabriel Rochon-Sabourin, paru le 19 juillet 2025 dans Le Devoir.